Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce temps de louange qui malheureusement était un petit peu court et pour cause puisque nous sommes contraints d'être fin prêts pour l'Assemblée Générale qui va commencer à 11h tout à l'heure. Mais avant, il est important que nous puissions écouter le bon conseil de la parole de Dieu. Et c'est notre frère Jean-Marie qui d'ailleurs en l'occurrence est encore membre de notre église. À l'époque, quand j'étais encore en formation, c'était mon président, le président d'honneur là, que Dieu soit béni. Et c'est lui qui aura la charge de dispenser la parole de Dieu. Et nous voudrions être tout ouïes ce matin encore et laisser le Seigneur nous parler. Amen. Je te laisse la place.
Voilà, bonjour à vous tous, frères et sœurs de Istres. Merci à ces parole de bienvenue de Joël. Je salue avec sa famille. C'est toujours une joie de venir vous rendre visite, de vous revoir et de bénir le Seigneur ensemble. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Sa grâce est abondante pour chacun d'entre nous. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er, une métaphore de l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, car si vous demeurez... Je vais chercher mes lunettes, j'ai oublié. C'est la jeunesse, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est pour lire un peu mieux. Ça ira mieux, hein? Bon. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, et de même j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen. Bien sûr, on aurait dû lire... tout le chapitre, c'est tellement... Quand on lit la parole de Dieu, il ne faudrait jamais s'arrêter, hein. Mais là, c'est difficile, puisque ce matin, quand même, nous sommes limités par le temps. Voilà, Jésus enseigne ses disciples, leur apporte ses paroles. Il est bon de recadrer ce moment. Ce moment, en réalité, ce sont les dernières paroles de Jésus avant Gethsémané. Quand on lit le chapitre 13, eh bien, nous apprenons que c'est le souper, c'est la Pâque, c'est Jésus qui va là accomplir des actes précieux. Il va manifester son amour à l'égard de ses disciples, puisqu'il nous est dit qu'il a mis le comble à son amour. Comment ? En lavant les pieds de ses disciples. Et il dira, si vous savez ces choses, c'est bien, mais Vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Une leçon d'amour et une leçon d'humilité. Remarquez, l'amour va avec l'humilité, parce que les humbles, ils sont amour, et amour et humble, ça va ensemble. Hein. Quand on est amour, on n'est pas orgueilleux. Hein. Et quand on est humble, on n'est pas orgueilleux. On est dans le commandement du Seigneur. Et c'est vrai que là, dans ce souper, dans cette fête de la Pâque, cette préparation, la croix est là, Gethsémané est là, le procès est là, Jésus va être crucifié. Eh bien, tout, c'est incroyable de voir que nous avons quatre chapitres. Le 13, le 14, le 15 et le 16. Et après, eh bien, nous voyons que Jésus va aussi manifester la prière sacerdotale. Et après, il va aller, n'est-ce pas, c'est l'heure de la croix, il va descendre au Cédron. Judas va arriver et il va être livré. Ainsi, dans ce temps assez court, eh bien, beaucoup de choses vont être dites et faites concernant eh bien, ces moments si précieux, si intimes. Jésus va ouvrir vraiment son cœur, manifester son amour et va leur apporter cette parole. Et c'est ce que nous avons lu ce matin, eh bien, cette métaphore concernant la vigne. « Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et vous, vous êtes les sarments. » Alléluia. Il y a une relation, bien sûr, entre le cep et le sarment. Le sarment, eh bien, s'il n'a pas un cep, il ne peut pas vivre parce qu'il reçoit la vie. Comme Jésus dira, je suis le vrai cep. Il y en a beaucoup qui se sont présentés comme donnant la vie, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux. Le mensonge est depuis le jardin d'Éden est là, mais lui, c'est le vrai cep qui donne cette sève, qui porte le sarment, et le sarment, il va porter du fruit. Et c'est à cela qu'on est destiné. Ce matin, la question qui se poserait à nous, quel fruit portons-nous? Alors j'espère, et je sais qu'à Istres, vous portez du bon fruit. Allez, hein? Ah, merci Seigneur, hein? Vous portez du bon fruit, c'est normal. Nous sommes eh bien, les vrais sarments, et ces sarments, ils reçoivent la vie, ils reçoivent la sève du Saint-Esprit, de la vie du Seigneur en nous, et ils ne peuvent porter que de bons fruits. La Bible dit bien, c'est Jésus, il dit, on les reconnaîtra à quoi? À leurs feuilles. Ah, ils ont de belles feuilles. À leurs fleurs. Vous savez, en ce moment, j'avais deux abricotiers, il y en a un qui est mort, malheureusement, il a fini sa vie. Il y en a encore un autre, il est un peu comme moi, il est moyen, quoi. Hein? Mais il est encore là, il a perdu pas mal de branches, hein? Il y a encore quelques branches, il a fait ces derniers temps, il a fait des fleurs, et maintenant apparu des abricots. Ah, ils sont pas très gros encore, ils ne sont pas bons à manger. Hein. Les fruits verts, il ne faut pas manger les fruits verts. Hein. Les parents ont mangé des fruits verts et les enfants ont eu les dents agacées. Non, nous sommes appelés à porter un fruit qui arrive à maturité. Alors ça, c'est peut-être dans un mois, vous voyez, hein, on va cueillir dans un mois. Et comme ça, je ferai un peu de confiture, et un peu pour la famille de Prudent. Voilà, hein. Vous direz, il a de la force, il a de la vigueur. La bonne confiture, bio, hein. Ah, je plaisante un peu. Eh oui, ah, c'est important. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est là la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Quels fruits nous portons? Paul disait aux Romains, nous portions autrefois. Alors, il y a autrefois, il y a aujourd'hui. Autrefois, nous portions des fruits, dira-t-il, dont nous rougissons aujourd'hui. Des fruits empoisonnés, des fruits gâtés, des fruits de misère, des fruits qui étaient négatifs, des fruits mauvais qui apportaient le mal. Mais la grâce du Seigneur a été là. Amen. Et si nous avons porté de mauvais fruits, aujourd'hui, nous allons porter par la nouvelle vie en Christ, puisque nous sommes nés de nouveau. Avant, nous portions des fruits de la vieille nature, du moi, du vieil homme, du vieil Adam, il a beaucoup de noms, et nous avons cette nature. Mais maintenant, nous avons une nouvelle nature. Depuis que nous nous sommes convertis, nous avons reçu cette nature du Seigneur, la nature divine. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, qui est cette sève qui coule en nous et qui veut être abondante. Et vous avez remarqué que la sève, en ce moment, eh bien, à cause de la chaleur, elle monte et les fruits se sont formés et ils vont arriver à maturité. Ainsi, Seigneur, si autrefois nous avons porté des fruits à la honte, et là il est dit, dont vous rougissez aujourd'hui, de la honte, c'était la mort, des fruits de mort. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à porter des fruits nouveaux, des fruits de paix. Et d'abord, le premier fruit que nous portons par cette vie nouvelle, les fruits de la repentance. Nous sommes passés par la porte étroite. Il ne faut pas essayer de passer par la fenêtre ou par le... Bien sûr, on peut des fois passer dans l'Évangile par le toit, mais ça, ce n'est pas indiqué. Hein. Et il faut passer par la porte. Et la Bible nous dit la porte étroite, le chemin étroit. C'est la porte de la repentance, comme prêchait Jean-Baptiste. C'est vrai, comme nous portions des fruits de misère, eh bien, nous sommes passés par la repentance pour produire des fruits nouveaux. Et si autrefois nous commettions certaines choses, nous vivions certaines choses, nous pensions, nous agissions, eh bien, maintenant, nous sommes dans la régénération pour porter des fruits nouveaux à la gloire du Seigneur. Ainsi, cette métaphore, n'est-ce pas, nous parle de la vraie vigne. Mon Père est le vigneron, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Et comme nous l'avons lu, tout sarment qui est en moi, premièrement, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits. Nous avons plusieurs possibilités, c'est ce que nous allons voir ce matin. La première, c'est ne pas porter de fruits. Vous allez me dire, mais c'est une anomalie, on ne comprend pas. Le sarment, il est attaché au cep, vous avez bien lu, et il ne porte pas de fruits. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a posé pas mal de problèmes, de réflexions. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Si on est ces sarments qui sont attachés au cep, nous sommes en Christ, nous allons produire du fruit. Et comment se fait-il que nous ne porterions pas de fruits? Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais c'est quand même pas évident. Ça porte à réflexion. Alors la réflexion, eh bien, c'est que je dis, eh bien, je suis ce sarment, je suis attaché au cep, je reçois la sève, je ne produis pas de fruits. Donc, je garde la vie pour moi. Vous savez, quand on est à Christ, on a reçu la sève, on a reçu l'Esprit, on a reçu la vie. Mais on ne l'a pas reçu que pour nous. On a reçu pour donner. Et vous savez, le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui est toujours en train, j'allais dire, de dire « Seigneur, donne-moi, 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 je reçois. » Notre vie en Christ n'est plus centrée sur nous-mêmes, mais elle est centrée sur le Seigneur et sur le prochain, sur l'Église, sur chacun d'entre nous. Certainement, peut-être des amis sont allés, moi je suis allé en Israël, vous avez visité le pays, vous avez peut-être fait du bateau sur le lac de Galilée, hein, t'as fait le voyage? Ah, magnifique, tout chrétien devrait le faire. Bon, j'ai pas d'action, hein, je dis ça librement. Peut-être vous êtes allé au Jourdain, j'ai eu même un petit-fils qui s'est fait baptiser, mais vous savez que ce soit l'eau d'ici ou du Jourdain... Ou de, c'est pareil, hein. Au contraire, elle est très boueuse là-bas. Bon, et celle-là, elle est plus pure, elle est plus pure, ouais. Bon, peu importe, c'est pas cela. Mais certainement, vous avez remarqué, vous êtes allé à la mer Morte aussi, vous avez vu. Alors, il y a le lac de Tibériade, la mer de Galilée. Donc, il y a le Jourdain qui arrive, il alimente ce lac. Et puis il sort de ce lac et il va se jeter dans la mer Morte. Si on l'appelle la mer morte, c'est parce qu'elle est vraiment morte. Hein. Il n'y a même pas de poisson là, hein. C'est tellement salé. Bon, la différence entre la mer morte, alors que le lac de Galilée, il est plein de poissons. D'ailleurs, c'est là qu'on pêche le Saint-Pierre. Il y en a mangé même le Saint-Pierre, vous vous rendez compte avec ça. Hein. Eh bien, la différence, elle est considérable. Parce que la différence, c'est que eh bien, le Jourdain arrive, il se jette dans le lac, mais le lac, il sort le Jourdain, il va dans la mer morte et stop. C'est-à-dire que le lac, lui, il reçoit et il donne. Tandis que la mer morte, elle reçoit, elle ne donne rien. C'est la mort. Et nous, nous pouvons être la mer morte, mais nous, on est le lac de Tibériade, hein, plutôt. Hein, là où on l'a, où il y a du poisson, où il y a la vie. Parce que le danger, si le Seigneur nous a donné sa grâce, et nous avons tout par grâce, c'est que nous avons reçu pour donner. Celui qui arrose, dit le Seigneur dans sa parole, il sera arrosé. Est-ce que vous voulez être arrosé encore ? Eh oui. Et je remarque qu'on donne et on reçoit, et on reçoit et on redonne. Et c'est de plus en plus, c'est la vie abondante. Frères et sœurs, ne prenons pas et ne recevons pas du Seigneur dans notre égoïsme, dans notre égocentrisme. Non, nous recevons, mais c'est surtout pour donner, pour répandre, pour apporter le témoignage du Seigneur, l'amour du Seigneur. Ce n'est pas simplement « Seigneur, aime-moi », mais « Merci Seigneur parce que tu m'aimes », mais c'est pour aimer à mon tour et à mon... Le Seigneur n'a pas cherché son intérêt, il n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour donner sa vie afin que nous, nous ayons la vie, et la vie en abondance. Alors, pas porter de fruits, ce n'est pas bon, c'est négatif. Souvenez-vous, quand Jésus allait à Jérusalem, il a eu faim et il a vu un figuier, il a dit « je vais manger des bonnes figues ». Et il a écarté, il a regardé, il y avait des feuilles, il n'y avait pas de fruits. Et vous savez que la parole que Jésus a prononcée contre le figuier. Et le lendemain, quand ils sont passés, il était mort, séché. Nous ne voulons pas être des figuiers secs. Et vous savez, c'est un peu le symbole, Jésus allait à Jérusalem. Et c'est cela, Jérusalem, eh bien malheureusement, et ce figuier qui a été maudit, n'est-ce pas ? Il n'a pas porté de fruits. D'ailleurs, cela se lit dans Ésaïe, qui nous porte le symbole d'Israël. Ésaïe, peut-être ça va s'afficher, chapitre 5, verset 1er. Ésaïe, chapitre 5, verset 1er. Parce que nous, l'Église de Jésus, nous sommes la deuxième vigne. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la première vigne ? Eh bien, chapitre 5, verset 1er, « Je chanterai à mon bien-aimé, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Vous voyez, Dieu avait en Israël planté une vigne et il voulait qu'elle porte du fruit et du bon fruit. C'est à cela qu'elle était destinée, pas à autre chose. Et il dira, « Sur un coteau fertile, il remua le sol, il ôta les pierres, il mit un plan délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle, il creusa. » Vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fait pour que sa vigne, eh bien, elle soit en condition de porter du bon fruit. Il creusa aussi une cuve. Il espéra qu'elle produisait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Et quand on voit l'histoire d'Israël, eh bien, c'est cela. Dieu a investi dans ce peuple afin qu'il produise des fruits d'amour, de joie, de paix, de grâce, de bénédiction, de témoignage. Ils avaient une mission d'être, en somme, le représentant du Seigneur pour les païens, parce qu'il n'est pas venu que pour Israël. Le monde devait, d'ailleurs, c'est ce qui est dit au travers d'Abraham, « Tu seras béni, tu seras une source de bénédiction pour les nations, pour les peuples. » Et malheureusement, il n'a pas été une source de bénédiction. Il n'a pas produit de bons fruits. « Que ferai-je à ma vigne ? J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'abattrai la clôture. Je réduirai en ruine. Il n'a poussé que des ronces et des épines. » Voyez, frères et sœurs, nous avons une lourde responsabilité. C'est pour ça que Jésus disait dans les évangiles, on enlèvera aux vignerons leur vigne et on la donnera à d'autres. Et le Seigneur nous a donné, nous, à l'Église de Jésus-Christ aussi, d'être cette bonne vigne qui va produire de bons fruits par la grâce du Seigneur. Nous avons en Israël, eh bien, une leçon. Et cette leçon nous montre que nous devons prendre garde à être la bonne vigne qui va produire de bons fruits. Ainsi, nous sommes cette vigne qui doit produire un fruit à la gloire du Seigneur. Car le Seigneur a dit, eh bien, si vous produisez du fruit, eh bien, je serai glorifié et vous serez mes disciples. En somme, nous serons la lumière du monde, le sel de la terre, nous apporterons, c'est au travers de nous que le Seigneur veut répandre la bénédiction sur tout Istres et le département. Il faut avoir la vision large. Ainsi, nous portons ce fruit à la gloire du Seigneur. Bon, pas porter de fruit, c'est négatif, c'est la misère, c'est la mort. Ainsi, nous allons porter du fruit. Deuxièmement, il porte du fruit. Tout sarment qui porte du fruit, il est monde. Porter du fruit, c'est la vie normale. Et je pense que souvent, nous voyons que dans nos services, dans nos actions, dans notre, nous pensons que c'est le fruit. Moi, je pense que le fruit premier, bien sûr, il y a le fruit des œuvres, etc. Mais il faut voir surtout le premier fruit que nous devons porter, c'est le fruit de l'esprit. Il y a une grande différence entre les œuvres de la chair, qui doivent être condamnées, crucifiées, mises à mort, et le fruit de l'esprit. C'est le caractère de Christ. Un chrétien qui porte du fruit, il est comme Christ, il aime comme Christ, il agit comme Christ, il prie comme Christ. Nous sommes des petits Christ. Nous le disons souvent, nous avons les qualités, le caractère de Christ. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous pensons, nous disons, nous faisons, c'est ce que nous sommes. Avant tout, c'est ce que nous sommes. Le plus grand témoignage que nous apportons dans ce monde, c'est ce que nous sommes les uns et les autres. Nous sommes, dit l'apôtre Paul, une lettre lue et connue de tous. Qu'est-ce que le monde lit en nous? Qu'est-ce qu'il voit en nous? Même si on ne parle pas, eh bien, nous sommes là comme des témoins du Seigneur remplis de son esprit. Alors, le fruit, porter du fruit, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, vous le connaissez, qui est en 9 grains, l'amour, la joie, vous êtes joyeux, oui. La joie d'en haut, la joie du Seigneur, n'est-ce pas? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Oh, c'est merveilleux. Ça, c'est une église parfaite. C'est une église vraiment. Le pasteur, il est béni, il dit, ah, c'est. Tous comme Christ, des petits Christ, la vie de Christ, portée du fruit. Le fruit de l'esprit, le caractère du Seigneur. On chantait autrefois, on peut chanter aujourd'hui, être comme Jésus, semblable au Christ, des petits Christ. Pas ce que simplement nous disons, mais c'est ce que nous sommes. Paul le dit bien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis crucifié avec Christ et Christ vit en moi. Donc, pas porter du fruit, n'en parlons plus. Porter du fruit, de l'esprit, oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, le Seigneur continue son œuvre, parce qu'il a commencé une œuvre de transformation, que nous soyons semblables à lui, et un jour nous le serons dans l'éternité. Mais nous avons besoin d'être émondés. Alors, émondés, on peut traduire tailler, couper. On ne taille pas comme cela. Moi, je me rappelle que quand j'étais sur Narbonne, j'avais une vigne grimpante. Et comme je ne connaissais pas, j'avais demandé à un chrétien, et surtout là-bas, il y a beaucoup de vignes, de venir me la tailler. Quand je suis revenu, j'ai fait un tour, je suis revenu, il m'avait tout coupé. J'ai dit, mais l'année prochaine, je n'aurai pas de raisin. Il m'a dit, mais c'est normal. Il ne faut pas s'étonner que ça taille, mais pas n'importe comment. Hein, le Seigneur, quand il émonde nos vies, il enlève des gourmands. Moi, si quand même je m'y entends dans les tomates. Hein. Alors les tomates, il faut enlever les gourmands. Hein, ça. Si vous voulez avoir des fruits, il ne faut pas laisser tout. Non. Enfin, on ne va pas faire un cours sur le jardinage. Mais vous m'avez compris, il y a des gourmands encore chez nous, il y a des branches mortes, il y a des... Non, si on veut... Et puis j'ai remarqué que si on laisse trop, on a des petits fruits. Et il faut savoir bien tailler, modérer, afin d'avoir des bons fruits excellents pour la bonne confiture. Merci. Émonder, tailler, dit le Seigneur, purifier ensemble, nettoyer, on peut traduire nettoyer. Et regardez la vie de Joseph, est-ce qu'il n'a pas été émondé? David, est-ce qu'il n'a pas été émondé? Job, il n'a pas été émondé? Si, il a été émondé, mais dans l'amour du Seigneur, dans la discipline, ce n'est pas pour nous détruire, nous faire du mal, nous accabler, loin de là, c'est pour le bien. Job est passé par, c'est vrai, une épreuve terrible, mais Dieu a renversé le mal en bien. Joseph aussi, vous avez vu ce que ses frères lui ont fait. Mais Dieu, en temps voulu, eh bien, a changé les choses. Il dira même, spirituellement parlant, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, mais le mal que vous aviez médité de me faire et que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Sachons toujours que nous sommes dans les mains du vigneron. Amen. Il ne taille pas comme ça, là, à tort et à travers. Non, il taille, il permet. Regardez David, quand je pense à David, combien il a eu de misère avec le beau-père. Je n'ai pas dit la belle-mère, mais le beau-père. Hein. Et puis, il a pas eu que le beau-père, il a eu des fils aussi difficiles. Hein. Il y en a eu deux. Et encore lui, il dit doucement avec Absalom. Et doucement, il mesure les choses. On passe tous par cette chose-là, n'est-ce pas? Cet émondage. Mais le but, c'est que nous portions, troisièmement, encore plus. Plus. Vous voyez? Porter encore plus de fruits. C'est-à-dire le fruit qui va arriver à maturité, à développement, n'est-ce pas? Qui sera meilleur. Parce que le Seigneur veut toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. Je remarquais que dans le temple, eh bien, il y avait les lampes, on les entretenait, et périodiquement, pas tout le temps, périodiquement, on les mouchetait, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un moment, le chrétien, il a plus de fumée que de lumière. Pardon. Comme on ne fume pas, n'est-ce pas? Mais on n'est pas là pour enfumer, on est là pour éclairer. La fumée, c'est toxique, n'est-ce pas? C'est pas bon. On est là pour éclairer. Mais c'était périodique, quand c'était nécessaire. Et c'est vrai que dans nos vies, il y a des périodes comme cela, peut-être de désert, au travers duquel le Seigneur nous façonne. Regardez Moïse, il est resté 40 ans dans le désert. Je ne dis pas qu'on va rester 40 ans dans le désert, mais c'est dans cette période-là que Dieu a travaillé dans la vie de Moïse. Regardez Moïse au début, il dit « Ah, j'arrive, je suis le libérateur, allez, j'arrive. » Quatre matins après, eh bien, il est obligé de fuir dans le désert. Il va rester au bout de 40 ans. Et quand Dieu lui dit « C'est l'heure maintenant, il faut y aller, servir le Seigneur. » Ah non. Là, Paul a dit « C'est quand je suis faible à moi-même, eh bien que je suis fort dans le Seigneur. Hein. » Quand je suis faible à moi-même. Quand je me crois fort, capable, non, si tu te crois capable, Dieu va te rendre incapable, n'est-ce pas? Pour te rendre capable, mais de sa force à lui, de son amour à lui, n'est-ce pas? Moïse agissait par lui-même, mais 40 ans après, et pendant 40 ans, il va servir. Si Dieu ne l'avait pas préparé ainsi, comment il aurait supporté ce peuple pendant 40 ans? Il n'a pas été facile, ce peuple. Un jour, c'était la contestation, le lendemain, il n'y avait pas l'eau, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez, ce n'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Le cœur de l'homme est difficile. Pas porter de fruits, c'est négatif. Porter du fruit, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut porter plus de fruits. Et quatrièmement, il faut porter beaucoup de fruits. C'est ce qu'il nous est dit, il porte encore plus de fruits. Tout simplement qu'il ne peut de lui-même porter du fruit, bien sûr, s'il demeure attaché au cep. Vous ne pouvez pas non plus, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui en qui je demeure porte maintenant beaucoup de fruits. C'est-à-dire, c'est l'abondance, l'abondance. Et le Seigneur nous appelle à une vie abondante. Le péché a abondé, mais c'est maintenant la grâce qui abonde. La vie abondante, être épanoui dans le Seigneur, développer, arriver à maturité. Quand on est un petit enfant, il faut tout faire pour nous. Mais nous ne sommes pas appelés à rester des petits enfants. Nous sommes appelés à devenir des adultes, des maîtres. Vous devriez être encore des maîtres. Paul disait aux Corinthiens, eh bien vous êtes encore des enfants, mais vous devriez être des maîtres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire des gens, des chrétiens qui s'occupent des autres. On aime bien, comme je le disais souvent, être bercé soi-même. Mais c'est fini maintenant le temps de bercer, on ne berce plus. Maintenant, il faut s'occuper des autres. Il faut porter les autres. Il faut entourer les autres. Il faut apporter de soi-même. On ne prend pas pour soi. D'ailleurs, même quand il est dit les dons de l'esprit, ces choses-là, eh bien, c'est pour l'utilité commune. C'est pour le bien des autres. Frères et sœurs, que le Seigneur détourne nos yeux de nous-mêmes et qu'il les porte sur ce qui est autour de nous. Quand on voit le bon Samaritain, lui, il est arrivé et les autres sont passés, mais lui, il a vu et il s'est occupé du blessé. Et il y a aujourd'hui beaucoup de blessés, malheureusement. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est à cela que nous sommes appelés. Et puis un peu plus loin, au verset 16, il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Ainsi, maintenant, nous devons porter du fruit, mais qui va demeurer, durable, n'est-ce pas, quelque chose qui est constant, persévérant. D'ailleurs, la Bible dit, le cœur honnête et bon de la bonne semence qui est jetée en terre, eh bien, il portera du fruit avec persévérance, avec endurance. Et ainsi, ne nous laissons pas étouffer par les mauvaises herbes et les choses de ce monde. Ainsi, nous porterons du fruit qui parviendra à maturité par la grâce du Seigneur. Mais pour tout cela, ça a un prix. Le prix, nous allons lire dans Jean, chapitre 12 et verset 24, 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Il dira un peu plus loin, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui aime sa vie dans le monde, mais celui qui la donnera, il la conservera pour la vie éternel. Perdre avec le Seigneur, c'est gagner. Alors si nous voulons gagner, il faut accepter de perdre sa vie. En attendant, dans ce passage, s'il tombe en terre le grain de blé, il meurt. Mais après, il y aura une bonne récolte. On voit toute semence qui est mise en terre, eh bien, grâce aux conditions favorables, elle va porter beaucoup de fruits. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. Mourir avec Christ pour vivre la vie du ressuscité. Si on veut la vie du ressuscité en nous, il faut passer par la croix. Et comme on le disait il y a quelque temps, une fois, si on s'arrête à la croix simplement, eh bien, si on ne va pas plus loin, eh bien, on risque de ne pas porter le fruit que nous devrions porter. C'est dans la mesure où nous prenons notre croix chaque jour, La mort à nous-mêmes, à notre volonté, c'est ce que Jésus a fait à soi-même, à ses plans, à ses idées, à ses désirs, mais pour vivre et recevoir la vie du ressuscité. Frères et sœurs, portons la vie du ressuscité. Acceptons la croix chaque jour. Acceptons de mourir à nous-mêmes, à nos intérêts. C'est quand je suis faible, c'est à cause de cette faiblesse, on accepte d'être dépouillé et après d'être revêtu. Que le Seigneur nous aide les uns et les autres à être des sarments qui portent du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, et qui portent du fruit en abondance et qui demeurent jusque dans la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur de travailler encore dans nos cœurs et dans nos vies. Nous sommes entre tes mains, des mains qui sont bonnes. Tu es plein d'amour pour nous, Seigneur. Et tu nous traites avec bienveillance, avec grâce, et ta grâce abonde. Et Seigneur, tu es à l'œuvre parce que tu ne te contentes pas simplement que nous portions du fruit, mais tu veux que nous en portions plus, davantage, en abondance. Et tu nous montres encore que c'est ce chemin étroit par lequel il faut passer. C'est cette croix, nous identifier dans ta mort, pour être identifié dans cette vie de résurrection, de victoire, de bénédiction et d'abondance. Alors Seigneur, abonde en nous, travaille en nous Seigneur, continue ton œuvre et rends-la parfaite pour le jour de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.